construit une histoire, des images, une représentation qui fait qu'on oublie qu'il y a eu dans ce pays des luttes sociales extrêmement virulentes, extrêmement fortes, extrêmement violentes, très très souvent, dont celle-ci est un exemple, j'allais dire parmi d'autres, oui, sans doute paroxystique, puisqu'il y a eu des morts et des pendus, mais c'est une lutte parmi d'autres. Et quel était le but de cette lutte? C'était la journée de 8 heures. Et ça, les grands patrons, les barons voleurs de l'époque, et là, en l'occurrence, à Chicago, c'était l'usine McCormick, refusaient de concéder ces 8 heures, avec une semaine de 48 heures, évidemment. C'était ça l'objectif, c'était ça le but, c'était le rêve de tous ces lutteurs sociaux. Et c'était la même chose en France à la même époque, d'où une internationale et d'où des conséquences de le retentissement de cette histoire. Mais en 1860, en France, on travaillait encore 14 heures de travail par jour. Et les travailleurs, les travailleuses luttaient pour réduire la journée de travail. Ils luttaient comme des fous pour obtenir la journée de 12 heures. Et voici la lettre qu'un patron de l'Isère adressait au préfet pour lui dire à quel point ce serait catastrophique une journée de 12 heures seulement. Le travail dans nos fabriques, disait ce patron, suivant les habitudes de nos belles contrées, a toujours commencé à 5 heures du matin, repos de midi à 15, fin à 19 heures, et ceci sans que la santé de nos ouvrières en ait jamais été altérée. Il y aurait de plus à craindre pour leur moralité si nous les affranchissions de 2 heures de liberté en soirée. Il y aurait d'autre part beaucoup à redouter pour l'avenir de nos entreprises. Vous le savez, elles vivent difficilement et si nous ramenons la journée de travail à 12 heures, la partie ne sera plus tenable. Nous serons obligés de transporter nos industries vers l'étranger où la main-d'œuvre est plus raisonnable. Voilà, c'était en 1872-13. On voit que les arguments n'ont pas changé ou peu changé. Depuis, c'est la même pression, c'est le même chantage. Néanmoins, la journée de 8 heures a été obtenue. En France, c'est en 1919. Elle n'a pas été appliquée tout de suite. Il a fallu d'abord une guerre mondiale pour obtenir ça. Et ensuite, elle a été appliquée, mais 2 ou 3 ans plus tard. En tous les cas, elle l'a aujourd'hui, mais toujours menacée. On le voit avec les histoires sur l'ouverture des magasins le dimanche, le repos du dimanche, qui est toujours, on voit bien que c'est une lutte qui est toujours vive. Là, on est donc à Chicago avec nos deux interlocuteurs, Tim et Matt, qui vont nous expliquer ce que fut cette journée particulière, ce 4 mai 1886, massacre à Chicago.
The largest demonstration was here in Chicago. About 80,000 people marched down Michigan Avenue, which is a major commercial strip.
Et donc ce jour-là, le 1er mai, il y a plus de 80 000 personnes qui ont marché dans l'artère principale de Chicago, qui est Michigan Avenue.
And some of the leaders of the strike here in Chicago, union organizers and leaders who were especially known for their radical rhetoric for working people.
Et il y avait les grands représentants, les grands leaders syndicaux de l'époque qui étaient reconnus pour leur radicalité et surtout pour leur combativité.
Well, there was it was a sunny day.
Et c'était un jour assez ensoleillé.
And, Lucy and Albert Parsons had their children with them, and people marched in their best clothing. The police, under orders of the captains of industry, looked for an opportunity to attack the parade.
Et c'était un jour assez ensoleillé, et tout le monde avait mis ses plus beaux habits, par la famille Parsons, cette leader syndicale et tous les autres. Et la police, qui était travaillée pour les grands patrons d'industrie, avait décidé de marquer l'événement.
The established press in Chicago saw the struggle for the 8-hour day movement to be nothing less than a communist revolution.
Et la presse établie de l'époque ne voyaient dans la revendication de la journée de travail de 8 heures rien d'autre.